journal Frédéric Mettezeau, bonjour.
Bonjour à tous. Une nouvelle avancée dans la lutte contre le sida. Un deuxième malade a totalement guéri après une greffe de moelle. Le résultat est spectaculaire et encourageant, mais il sera difficile de généraliser cette technique. Après 4 mois de détention, Carlos Ghosn pourrait sortir de prison dans les heures qui viennent, sous caution et avec une assignation à résidence très stricte au Japon. Pour une renaissance de l'Europe, Emmanuel Macron publie sa tribune dans les 28 pays membres de l'Union. Alors que la droite européenne se déchire sur le cas Orban, Nicolas, voilà de quoi nourrir le grand entretien à 8h20.
Oui, l'invité François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Vous pouvez dialoguer avec lui, le standard est là, 01 45 24 7000. Sinon, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
2000 emplois menacés chez Conforama en France. Les syndicats rencontrent la direction aujourd'hui. Confo pourrait même être revendu à son principal concurrent. Encore des émeutes dans le quartier Mistral à Grenoble, 48 heures après la mort de deux fuyards poursuivis par la police. Nous serons sur place. Car les morts, vive Chanel, semaine de la mode avec le défilé Chanel tout à l'heure au Grand Palais à Paris et l'ultime collection imaginée par Karl Lagerfeld.
France Inter.
Espoir prudent, mais espoir quand même. Un deuxième malade du sida a guéri après avoir suivi un traitement qu'il a pu arrêter. Un processus similaire s'était produit au début des années 2000. L'information que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr est rendue publique ce matin par la revue scientifique Nature et par le New York Times. Aux États-Unis, Grégory Phillips.
Il y a 12 ans, pour la première fois, un patient infecté par le VIH était considéré comme guéri par ses médecins. Timothy Ray Brown a aujourd'hui 53 ans et vit en Californie. Mais aucune équipe médicale n'avait réussi à reproduire ce processus de guérison pour d'autres malades. Cette fois, une autre personne, présentée dans l'étude comme le patient de Londres, est donc guérie. Après 18 mois de rémission, cette personne n'a plus besoin de traitement antirétroviraux. Comme pour le premier malade, elle a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse et les cellules transplantées ont peu à peu remplacé celles contaminées par le virus. Cette seconde guérison prouve que la première n'était pas une anomalie ou un accident, disent les scientifiques. C'est un espoir pour les 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH, mais les médecins londoniens restent prudents. Leur patient, évidemment, va rester sous observation pendant encore de longs mois et la méthode utilisée, celle de la greffe, n'est pas adaptée à toutes les situations. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Il est 8h03, Carlos Ghosn pourrait bientôt sortir de prison.
Le juge accepte de le libérer sous caution de 8 millions d'euros. Le procureur fait appel et la décision définitive tombera dans les heures qui viennent. Fabien Cazot, vous êtes en direct ce matin pour commenter la libération possible de l'ex-PDG de Renault, soupçonné de malversation financière et fiscale. Il est incarcéré sous un régime très dur et s'il sort de sa cellule, Fabien, sa liberté sera très encadrée.
Très certainement, puisque le motif de son maintien en détention jusqu'à présent, c'était la crainte pour la justice japonaise que Carlos Ghosn ne profite de sa sortie pour tenter de fuir ou de détruire des preuves. Ses avocats ont donc négocié un contrôle très étroit de sa remise en liberté. Obligation de résider à une adresse indiquée au tribunal, obligation de répondre aux convocations judiciaires, interdiction de rencontrer d'autres protagonistes du dossier. On parle même de vidéosurveillance pour suivre les allées et venues de Carlos Ghosn. Il n'empêche, malgré toutes ces contraintes, si l'ex-patron de Renault-Nissan sort effectivement de prison aujourd'hui, ce sera une victoire pour sa défense réorganisée autour de son avocat français, de son nouvel avocat japonais et de celui de ses proches qui plaident l'inhumanité de ses conditions de détention. Carlos Ghosn pourra mieux préparé avec sa défense en vue de son futur procès. Il s'était montré très offensif contre ses accusateurs japonais lors des rares prises de position qui avaient filtré depuis son incarcération le 19 novembre dernier.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter, l'avocat de la famille Ghosn, prédit la fin d'une détention absolument cruelle et brutale. Le directeur général de Renault dit qu'il veut une alliance avec Nissan équitable et non pas basée sur un rapport de force.
8h04, Emmanuel Macron publie donc sa tribune dans les journaux de 28 pays de l'Union européenne.
À 3 semaines du Brexit, à 3 mois des élections européennes, le président de la République s'annonce ou s'adresse aux citoyens d'Europe. Fini les discours prestigieux d'au Parthénon dans le grand amphi de la Sorbonne. Emmanuel Macron s'exprime donc dans 28 journaux en espérant toucher le grand public. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Emmanuel Macron se campe toujours en opposant aux nationalistes et au nationalisme, mais il polit son vocabulaire.
Et oui, exit des termes aussi clivants que la lèpre pour parler des populistes. populismes et des nationalismes. Il parle désormais du danger d'un souverainisme qui jetterait la belle idée européenne avec l'eau du bain, l'eau dont il concède qu'elle n'est plus aussi pure. Face aux offensives commerciales de la Chine, des États-Unis, il faut des frontières. Assumer une préférence européenne, dit-il. Face aux cyberattaques et à l'entrisme de certains pays, il faut interdire le financement des partis politiques par des puissances étrangères. Il souhaite une agence européenne de la démocratie pour mieux protéger. Protéger près de 30 occurrences dans le texte présidentiel et les frontières qu'il n'hésite plus à ériger contre les migrations notamment. L'annonce qui fera le plus débat étant sans doute cette remise à plat des accords de Schengen que Nicolas Sarkozy, il y a près de 10 ans, appelait déjà de ses voeux.
Laurence Perron, les réactions aux propos d'Emmanuel Macron. On cache les sujets difficiles et rien ne change, estime Laurent Wauquiez. Pour le socialiste Olivier Faure, il est un faussaire du progressisme. Pour la tête de liste RN, Jordan Bardella, il est tout seul sur son projet d'Europe fédérale quand l'insoumise Manon Aubry dénonce son Europe de la concurrence, de la casse sociale et du conservatisme. Cette tribune du chef de l'État marque le coup d'envoi de sa campagne pour les européennes. Le scrutin se tient le 26 mai. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Frédéric.
Emmanuel Macron prépare déjà le coup d'après.
Oui, les propositions qu'on vient d'évoquer ne sont pas toutes nouvelles, loin s'en faut, mais elles permettent à Emmanuel Macron de dénoncer le statu quo. Ni le repli nationaliste, ni l'europhilie béate. Emmanuel Macron se veut, tient donc, central, incontournable dans la future recomposition après les élections. Car fin mai, le Parlement de Strasbourg sera plus europhobe qu'aujourd'hui, mais il restera dominé par les forces politiques traditionnelles qui auront bien besoin de son appui. Emmanuel Macron en fait le pari.
Et pendant ce temps, Louise, la droite européenne est en pleine gamberge. En pleine reconfiguration, quelle ligne adopter ? Plutôt fédéraliste, plutôt nationaliste ? Le cas Orban cristallise les débats.
Oui, une reconfiguration déjà engagée avec cette exclusion programmée de Viktor Orban. Jusqu'ici, enfant terrible du PPE, le groupe conservateur majoritaire au Parlement le jugeait jusqu'ici plus dangereux dehors que dedans. Mais le national-conservateur hongrois est allé trop loin avec sa campagne d'affichage violente et complotiste contre le président de la Commission et membre du PPE, Jean-Claude Juncker. Résultat, 12 partis membres issus de 9 pays ont lancé une procédure d'exclusion sans la CDU allemande et les LR français. Mais cela est largement suffisant pour que les jours d'Orban au sein du PPE soient comptés. Décision le 20 mars, elle pourrait finalement arranger le Premier ministre hongrois qui jusqu'ici jouait la carte du changement de l'intérieur, mais a peut-être d'ores et déjà pour projet de se rapprocher de la Ligue italienne de Matteo Salvini ou du PiS ultra-conservateur au pouvoir en Pologne.
Et ce matin, Emmanuel Macron reçoit officiellement le soutien de Jean-Pierre Raffarin, preuve que la droite est en pleine réflexion. Affaiblir le président français, c'est affaiblir la France, explique l'ancien Premier ministre dans le Figaro. Dans un quart d'heure, je vous le rappelle, la tête de liste LR pour ces européennes, François-Xavier Bellamy, sera l'invité du grand entretien de France Inter. C'est la condition pour une adhésion encore lointaine à l'Union européenne. La Serbie va-t-elle reconnaître le Kosovo ? Le président serbe évoque cette possibilité 20 ans après la guerre, 10 ans après que l'ancienne province serbe s'est déclarée indépendante. Mais le serbe Aleksandar Vukic demande avant des concessions au Kosovo, notamment au niveau des tarifs douaniers. Le mouvement de grève générale des étudiants algériens est très suivi après la nouvelle déclaration de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, candidature muette d'un président invalide soigné en Suisse. Hier, la présentatrice du journal télévisé qui a lu sa lettre de candidature a démissionné, apparemment mal à l'aise d'avoir dû se faire porte-parole du président algérien. Et ce matin, l'un des principaux opposants à Bouteflika s'exprime sur France Inter. Son ancien premier ministre, issu du FLN, Ali Ben Flis, qui a renoncé à se présenter en avril prochain. Pour lui, Bouteflika doit se retirer, il l'a dit à Nathalie Charbonnier.
La crise, elle est là, elle date d'assez longtemps, maintenant elle est aiguë. Vous savez ce que les gens n'ont pas accepté ? Pour eux, cette candidature imaginaire, cette candidature surréaliste, ils ont senti cela comme de la provocation et c'en est une. C'est une humiliation pour les Algériens et c'est une provocation. 20 ans, au 21e siècle, mais c'est fini, ces régimes de 10 ans et de 20 ans, c'est terminé tout cela. On veut ce pouvoir politique absolutiste, veut gouverner l'Algérie avec les méthodes du 18e, du 19e et peut-être celles du 20e siècle. Nous sommes au 21e, c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est la jeunesse. Et puis c'est un peuple qui veut prendre son destin entre les mains. Si les Algériens ont combattu pour leur indépendance et ont donné pour cela 1,5 million de martyrs pendant 7 années et demie de révolution et de guerre armée contre la colonisation, ils ne peuvent pas accepter maintenant qu'ils ne puissent pas décider de leur destin.
France Inter, 8h10, retour à l'actualité française, Frédéric, avec une soirée de violence à Grenoble.
Deux jours après la mort de deux jeunes gens en scooter, poursuivis par la police, de nouvelles échauffourées dans le quartier Mistral, des barricades, des boules de pétanque, des cocktails Molotov contre les pompiers et les forces de l'ordre. Au moins une personne de 25 ans a été interpellée. Les violences ont duré jusqu'à 1h30 du matin. Sur place pour France Inter, Christophe Vincent.
Ce matin, l'avenue Rhin et Danube, qui traverse la cité, offre un spectacle de désolation. Une carcasse de voitures calcinées, des poubelles brûlées, des débris d'abribus qui jonchent la chaussée. Sur la vitrine de la pharmacie, on peut lire ce tag « Police tueur, c'est la guerre ». Au pied d'un immeuble, un homme fait les 100 pas. C'est le père d'une des victimes qui n'a pas dormi. Hier soir, il est allé parler aux jeunes.
J'aimerais bien les jeunes rester calmes. Moi, j'ai vu un avocat, Maître Géraud. C'est lui qui va faire son travail. Il y a la justice. Laisse la justice qui fait son travail. Et merci à tout le monde. Merci.
Une jeune femme attend son bus, elle accepte mal ce déchaînement de violence.
Moi je trouve que c'est un peu bête, on va dire, cette situation, parce qu'on pourrait très bien s'entendre et des incidents comme ça, ça ne devrait pas se produire, parce qu'en soi, les personnes sont en tort et il faudrait que ça cesse, quoi.
J'ai vu la police hier soir, dit une autre habitante, elle fait un métier difficile, mais elle doit respecter les lois et ne pas courser des jeunes sans casque. Ici, la tension est retombée, mais pas la colère. À la cité Paul Mistral, à Grenoble, Christophe Vincent, France Inter.
Le ministère du Travail valide le plan de suppression d'emplois chez Ford à Blanquefort. 850 salariés sont concernés. Selon les syndicats, environ la moitié seront licenciés, l'autre moitié sera placée en pré-retraite et quelques dizaines de salariés seront reclassés dans une autre usine Ford non loin de Blanquefort. Ils sont de droite, centristes ou LR, ils sont socialistes et communistes. Les 7 départements d'Île-de-France souhaite devenir actionnaire du groupe Aéroport de Paris. Information des Échos ce matin. Ils veulent acheter 29,9% du groupe que le gouvernement souhaite privatiser. Et c'est un paradoxe car ces départements sont opposés à la privatisation. Mais plutôt que de laisser des entreprises privées contrôler Roissy, Orly et Le Bourget, ils préfèrent entrer au capital. Les départements franciliens expliquent que les aéroports sont la première frontière de France. Chez Conforama, l'inquiétude des salariés. Aujourd'hui, les syndicats et la direction au rendez-vous pour évoquer la situation des magasins d'électroménager et de meubles. Selon plusieurs médias, 2000 postes seraient menacés. C'est un emploi sur 5. Et même, Maxime Debs, Conforama pourrait être vendu à l'un de ses principaux concurrents.
Pour une enseigne qui s'affiche et se vante d'être le sponsor principal de la Ligue 1 de football, 25 millions d'euros injectés sur 3 ans pour apparaître simplement sur des maillots. Ces rumeurs de salariés qui pourraient être mis sur la touche passent mal. On est loin du fair play pour Aziz Bouchetrit de la CGT Conforama.
C'est un tacle par derrière, c'est incompréhensible. Ça fait 32 ans que j'y suis, j'ai jamais vu ça.
Car aujourd'hui, la situation de l'entreprise dépasse les syndicats. Depuis des mois, le propriétaire sud-africain de l'enseigne inquiète. En grande difficulté, ses comptes de l'an dernier n'ont toujours pas été publiés. On a connu plus rassurant, surtout quand transversal, en coulisses, déjà la vente de Conforama serait amorcée. Le concurrent direct But aurait un coup à jouer, c'est sûr, mais les salariés pourraient être les grands perdants du match.
À mon humble avis, c'est la seule enseigne aujourd'hui qui serait à même de reprendre. Sauf que quand on connaît la rivalité qu'il y a entre les deux, dans 70% des cas, là où vous avez un Conforama ou un But, vous avez l'autre qui est juste à côté, juste à proximité. On a vu ce que ça a fait avec la fusion de Darty et la Fnac.
Le dossier Conforama est en tout cas scruté de près du côté de Bercy. Le ministère qui surveille, mais se garde bien pour l'instant de tout commentaire.
Quand libéralisation rime avec concentration, la compagnie d'autocars Flixbus souhaite racheter son concurrent Transdev. Transdev, ce sont les autocars Euroline et Easyline. 4 ans après le lancement des cars Macron, il ne reste plus que 2 compagnies sur 5.
Il est 8h14 et ce sera sans doute le point d'orgue, Frédéric, de la semaine de la mode à Paris.
Oui, la Fashion Week, comme disent les puristes. Défilé Chanel tout à l'heure à 10h30, mais sans Karl Lagerfeld, mort il y a 2 semaines, il avait préparer cette collection avec son bras droit, Virginie Viard, qui assure l'intérim. Les modèles défileront sous la verrière du Grand Palais, lieu emblématique qui inspirait Lagerfeld depuis plus d'une décennie. Jacqueline Pétrose.
Sous la nef, la lumière est magnifique, quel que soit le temps. C'est cela que l'artiste et photographe Karl Lagerfeld aimait. Cette verrière, il l'appréciait depuis longtemps. Juliette Armand, directrice des événements du Grand Palais.
Il avait découvert ce lieu enfant, lors d'un salon de l'automobile. Il était revenu dans les années 60 pour voir un ballet de Maurice Béjart.
Cet espace de 13 500 m2, Karl Lagerfeld l'a investi spectaculairement. Une navette spatiale, un supermarché, la Grande Muraille de Chine. L'équipe Chanel arrive avec les décors clés en main, montés en 10 jours maximum.
Ils viennent nous voir effectivement plusieurs mois avant chaque défilé. Vous savez qu'ils défilent 4 fois par an, avec des sujets techniques qui peuvent varier. Récemment, il y a eu des chutes d'eau. Vous savez qu'il y a eu les gorges du Verdon. Il y a eu aussi des plages avec un flux et un reflux. Donc, en fait, quand ça nous arrive, toute l'étude de faisabilité a quasiment été faite chez eux en interne. Et vous voyez les résultats qui sont toujours très grandioses à l'échelle du lieu, avec une dimension poétique, une attention aux détails qui concourt d'ailleurs à cette poésie. C'est très, très professionnel.
Pour le défilé de ce matin, le secret a été bien gardé, même si le décor pourrait avoir un lien avec l'hiver et la montagne. Les invités et journalistes du monde entier, devant l'ultime mise en scène de Karl Lagerfeld, seront sans doute étreints par l'émotion.
Le Grand Palais écrin de Karl Lagerfeld. Vous avez plein de belles photos à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Frédéric Mettezo. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et le ciel marque une pause, Stéphanie.
Et oui, les conditions sont plus calmes ce matin, mais le ciel de traîne de la perturbation tempétueuse Freya concerne encore une grande partie du pays. Il est bien chargé sur le nord, avec des averses un peu plus fréquentes sur l'extrême nord au réveil, et la neige sur les Vosges. En descendant vers le sud, le ciel se dévoile peu à peu, offrant même une belle impression sur le sud-ouest, les Alpes, le pourtour méditerranéen et l'île de Beauté. Les rafales de vent sont par ailleurs fortes sur le nord de la Corse, avec des pointes à 90 km par heure, pour se renforcer cet après-midi sur la partie nord de l'île, avec des pointes pouvant atteindre les 100 km par heure. Cet après-midi, le ciel restera voilé, mais l'impression sera bien lumineuse entre la Vendée, les Pyrénées-Atlantiques, les Savoies, la Méditerranée et la Corse. Tandis que plus haut, le ciel nuageux continuera d'affecter les régions entre le Massif central, la Bretagne et les régions du quart nord-est, lâchant fréquemment quelques gouttes le long des frontières belges.
Une certaine douceur règne à nouveau dans le sud-ouest.
Avec pas moins de 20 degrés attendus cet après-midi à Biarritz contre 11 à Lille ou Reims. Le mercure repart au-dessus des normales de saison. Il fera 10 à 16 degrés, voire 17 à 21 sur le littoral méditerranéen. 10 à Épinal mais 16 à Perpignan. 12 à Dunkerque et Colmar. 13 à Paris. 14 à Rennes et Clermont-Ferrand. 15 à Périgueux. 16 à Valence. 18 degrés à Cahors et peut-être même 22 à Hendaye.
Stéphanie Fromentin, merci.